La rivalité entre Ford et Ferrari est parmi les plus iconiques du sport et a participé à donner ses lettres de noblesse à la marque de Détroit en sport automobile, avec notamment une première victoire au Mans en 1966. Un duel porté à l'écran en 2019 dans l'excellent film Le Mans 66 de James Mangold. Et au début des années 2000, la marque à l'ovale bleu se dit eh bien qu'elle remettrait bien le couvert, mais cette fois en Formule 1. Il faut dire que Ford en F1, c'est une longue histoire en tant que motoriste, avec notamment le mythique Ford Cosworth DFV, qui fera rugir ses cylindres de 1967 à 1983 sur les grilles de départ. Sur cette période, la marque américaine va récolter pas moins de 10 titres des constructeurs et 12 du côté des pilotes. Un 13e viendra s'ajouter en 1994 avec Michael Schumacher. Et donc Ford en F1, c'est ce qu'on peut appeler un joli palmarès, mais le géant ne s'est jamais engagé comme constructeur à part entière. Et même si la présence de la marque a été continue depuis 1967, le titre de 1994 acquis par Schumacher est le seul trophée récolté en 10 ans. Et avec la perte de Benetton, qui a préféré se tourner vers Renault pour la saison suivante, eh bien Ford se retrouve un petit peu à jouer les seconds rôles. Si bien qu'en 1996, la marque annonce son implication dans le projet Stuart Grand Prix, co-dirigé par Paul et Jackie Stewart. Le triple champion du monde est une figure mythique des succès de Ford dans les années 60 et 70, si bien que cette association est des plus logiques en termes d'image. Mais pour la faire courte, parce qu'on vous reparlera sans doute plus longuement de l'aventure Stuart dans un autre épisode, eh bien les pontes de Ford s'impatientent rapidement devant des résultats qu'il y tarde à venir, et en juin 1999, le constructeur annonce prendre le contrôle de Stuart à partir de la saison suivante. Quelques mois plus tard, Johnny Herbert offrira la victoire à Stuart lors d'un Grand Prix d'Europe resté dans les mémoires. Une belle façon de clôturer l'aventure des voitures blanches au tartan. Et pour son arrivée en tant qu'écurie complète, Ford décide, comme lors de son association avec Stuart, eh bien de faire un joli coup de com', puisque c'est sous le nom de Jaguar, racheté en 1989, que la marque viendra se frotter à Ferrari. Oui, parce que l'ambition est de faire du félin britannique l'équivalent du cheval cabré italien et de faire déferler une vague verte sur le championnat. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Jaguar, qui a un joli palmarès en sport auto également, avec notamment deux victoires aux 24 heures du Mans, en 89 et en 1990, eh bien Jaguar avait déjà participé à un Grand Prix de Formule 1 dès la première saison en 1950 à Monza. A l'époque, la marque avait simplement installé un moteur XK dans une Ferrari 166 et avait abandonné sur problème moteur. Mais revenons à nos années 2000 et au 25 janvier plus précisément, lorsque Jaguar lève le voile sur la R1 qui arbore une des plus belles livrées de l'histoire de la Formule 1, avec un vert british du plus bel effet. Sportivement, l'ambition est de se hisser dans le top 3 du championnat, objectif qui ne semble pas totalement irréaliste puisque l'année précédente, Stuart avait terminé 4e avec moins de moyens. Sauf que cette saison 2000 sera un véritable chemin de croix pour l'écurie de Milton Keynes, avec comme seule éclaircie la 4e position d'Eddie Irvine à Monaco. Autant vous dire que du côté de Détroit, les rugissements du début de saison ont rapidement fait place à des grognements de mécontentement. Et comme souvent dans ces cas-là, eh bien on fait table rase et on revoit l'organigramme de fond en comble. C'est ainsi que Niki Lauda arrive dans l'écurie pour épauler Bobby Rahal dans une direction bicéphale à la répartition des rôles pas forcément claire et qui provoquera quelques tensions à l'avenir. Côté technique, Steve Nichols est venu remplacer un Gary Anderson en cours de saison 2000. Chez les pilotes, Eddie Irvine conserve quant à lui son baquet et fera équipe avec Luciano Burti pour les 4 premiers Grands Prix de la saison avant qu'il ne soit remplacé par Pedro de la Rosa. Et sportivement, on peut pas dire que 2001 soit franchement meilleur que la saison précédente, malgré 4 entrées dans les points, dont un podium à Monaco. En 2001, en fait, si Jaguar fait surtout les gros titres, c'est pour ce qu'il se passe en coulisses, avec notamment la rumeur insistante annonçant l'arrivée d'Adrian Newey, l'ingénieur qui a fait gagner Williams et McLaren ces dernières années. Le 1er juin, un communiqué est même publié officialisant l'accord entre les deux parties, l'anglais devant prendre ses fonctions au mois d'août 2002. Sauf que Newey, de son côté, affirme n'avoir jamais rien signé. Sûr de son fait, Jaguar menace alors de porter l'affaire en justice, attaquant non seulement l'ingénieur, mais également son écurie actuelle, McLaren. L'affaire sera finalement résolue le 14 juin, McLaren et Newey présentant leurs excuses à Jaguar pour l'incompréhension autour de ce contrat et Jaguar, elle, acceptant de ne pas contraindre Newey à rejoindre Milton Keynes en vertu des lois européennes en vigueur. Cet imbroglio coûtera néanmoins la tête de Bobby Rahal, laissant Lauda enfin seul maître à bord. 2002 doit donc marquer le véritable envol de Jaguar en Formule 1 après deux saisons marquées par le manque de fiabilité et les guerres de pouvoir. D'ailleurs, lors de la présentation de la R3, Niki Lauda affirme qu'un nouvel esprit s'est emparé de l'écurie et que cette nouvelle monoplace est le fruit d'un véritable travail d'équipe. Mais les sourires de début de saison feront vite place aux grimaces lors des premiers essais. En effet, la R3 est tout aussi ratée que ses devancières, tout simplement. Suffisant pour faire sauter le directeur technique remplacé par Gunther Steiner en provenance du programme Ford en WRC. Lors du premier Grand Prix en Australie, Eddie Irvine et Pedro de la Rosa sont respectivement 19 et 20e sur la grille de départ. La quatrième position décrochée par l'Irlandais le lendemain n'étant qu'un écran de fumée dû au carambolage du premier tour. Encore une fois, au-delà d'un comportement hasardeux, la fiabilité était un réel problème avec pas moins de 17 abandons pour raisons mécaniques en 34 départs. Le podium de Monza, encore une fois signé par Eddie Irvine, ne sauvera ni la saison ni le poste de Niki Lauda qui sera remercié en fin de championnat. 70 autres employés subiront le même sort, dont Gunther Steiner et les deux pilotes titulaires. En 4 ans, Jaguar aura connu autant de team principals et 3 directeurs techniques. Mais la saison 2003 semble enfin poser des bases plus saines pour l'avenir. La Jaguar R4 est moins capricieuse que ses grandes sœurs et surtout plus fiable avec 9 abandons sur problèmes mécaniques dont 7 liés au moteur. Ce qui permet à l'écurie d'entrer à 7 reprises dans les points dont 6 grâce à Mark Webber. Justin Wilson, remplaçant du décevant Pizzonia, s'offrira lui un top 6 à Indianapolis. Mais la plus grande victoire de Jaguar en cette saison 2003, c'est cette sérénité qui semble enfin se dégager de l'écurie et qui laisse entrevoir l'avenir sous de meilleurs jours, d'autant que Ford décide d'investir dans une nouvelle soufflerie. Mais malheureusement, en 2004, Jaguar stagne et ne fait guère mieux que la saison précédente. Son moment de gloire, si on peut dire, interviendra à Monaco. La R5 fait alors la promotion du film Ocean 12, et un diamant de 300 000 $ est incrusté dans le museau des voitures. Un bijou qui disparaîtra dans l'accident de Christian Klien en course. Devant des résultats toujours aussi décevants, les rumeurs commencent à circuler dans le paddock sur la possible vente du team. Vente qui sera officialisée en novembre, Red Bull reprenant les commandes pour 1 € symbolique. Et la suite, eh bien, on la connaît tout simplement. Une direction quasiment inchangée depuis ses débuts avec Christian Horner, Helmut Marko, et Adrian Newey, tiens, 7 titres des pilotes, 6 du côté des constructeurs, série en cours, pas mal pour une marque qui était vue comme un vulgaire vendeur de canettes à ses débuts, et qui deviendra en 2026 une écurie motoriste à part entière avec le soutien de Ford.